La Grande Mademoiselle, un livre d'Arvet Barine, lu par Emmanuel Voix. Partie 2, la transformation des mœurs, naissance de la vie de salon. Les mémoires de la Grande Mademoiselle n'offrent que peu de choses à glaner, soit sur elle-même, soit sur les affaires du temps. Jusqu'au dernier mois du règne de Louis XIII, l'âge ingrat la traita mal, à tous égards. Elle avait été jolie et délurée dans sa petite enfance. À 12 ans, c'était une grosse fille avec de grosses joues, de grosses lèvres, l'air bête, un franc laideron et trop absorbée par la vie animale, le besoin de jouer et de remuer pour jamais observer ou réfléchir. Il est à peine croyable qu'une jeune fille élevée à la cour de France nullement sotte dans le fond, et apportée par sa naissance de tout voir et de tout entendre, ait pu traverser en sourde et en aveugle quelques-unes des catastrophes les plus saisissantes de cette époque tragique. Mademoiselle était la première, plus tard, à s'en étonner. Elle donne un exemple qui passe l'imagination. En 1637, avant de partir pour son voyage en province, elle était allée faire ses adieux à leur majesté qui se trouvait à Chantilly. Mademoiselle tombait en plein drame. Richelieu venait de mettre en pénitence la reine de France, convaincue d'avoir abusé de ses retraites au couvent du Val-de-Grâce pour entretenir des correspondances secrètes avec l'Espagne. On avait fouillé le Val-de-Grâce, arrêté l'un des domestiques d'Anne d'Autriche, on l'avait interrogée elle-même comme une criminelle, et elle avait eu un tête-à-tête bien amer dans sa chambre de Chantilly avec un Richelieu qu'elle n'avait plus reconnu. Il y avait alors une dizaine d'années que Louis XIII, entrant à l'improviste chez sa femme, avait interrompu la déclaration que lui faisait son ministre. Après Marie de Médicis, Anne d'Autriche, c'était évidemment un système, une politique où l'orgueil avait sa part, le cœur aussi pour Anne d'Autriche, qui était jeune et belle, mais un cœur à la Richelieu, et il faudrait savoir à quoi cela ressemblait. Les historiens ne se sont pas donné la peine de nous le dire, parce qu'il y avait plus important à connaître pour eux et pour l'histoire de l'Europe, dans un homme d'État de cette envergure. La vie sentimentale du cardinal de Richelieu ferait pourtant la matière d'un beau chapitre. Elle était violente et cruelle, comme toutes les passions qui hantaient cette âme tourmentée, comparée par Michelet à un grand logis ravagé. L'amour y était toujours doublé de haine. Madame de Motteville, témoin des procédés de Richelieu envers la reine, n'en revenait pas de ses façons de plaire. Les premières marques de son affection, écrivait-elle, furent les persécutions qu'il lui fit. Elles éclatèrent aux yeux de tous et nous verrons durer cette nouvelle manière d'aimer jusqu'à la fin de la vie du cardinal. Anne d'Autriche ne fut sensible qu'aux persécutions. Richelieu déplaisait aux femmes. Il avait la toute-puissance, la richesse, le génie. On le savait sans pitié dans la colère. Et il ne pouvait seulement pas obtenir qu'elle fît semblant de l'aimer. Et elle se moquait toute de lui. Même les Marion de Lorme et Retz nous en a livré la raison. N'étant pédant en rien, il l'était tout à fait en galanterie. C'est une chose que les femmes ne pardonnent pas. La reine détesta Richelieu et le lui fit sentir. Il tint sa vengeance avec l'affaire du Val-de-Grâce. Après qu'on avait prononcé le gros mot de trahison, il dépendait de lui de faire renvoyer honteusement en Espagne cette reine stérile. Il se donna le plaisir de la voir à sa discrétion, affolée, résignée à en rabattre de son ancienne hauteur et de la dédaigner avec des affectations de respect parfaitement insultantes dans la circonstance. De peur que la postérité n'en ignorât, il a retracé de sa propre main la scène qui avait été si délicieuse à sa vanité blessée. Il avait laissé la reine s'enterrer. Lui rendre plus de témoignages de sa bonne volonté qu'il n'en osait attendre. Et lui expliquer à sa manière, par de gros mensonges sans artifice, ses lettres à ses frères et à ses amis d'Espagne. Quelques mots avaient suffi ensuite pour la confondre et la pauvre femme avait immédiatement perdu la tête. Alors, poursuit Richelieu, elle confessa au cardinal tout ce qui est dans le papier qu'elle a signé depuis, avec beaucoup de déplaisir et de confusion d'avoir fait les serments contraires à ce qu'elle confessait. Pendant qu'elle fit la dite confession au cardinal, sa honte fut telle qu'elle s'écria plusieurs fois « Quelle bonté faut-il que vous ayez, monsieur le cardinal ?» Et protestant qu'elle aurait toute sa vie la reconnaissance de l'obligation qu'elle pensait avoir à ceux qui la tiraient de cette affaire. Elle fit l'honneur de dire au cardinal « Donnez-moi la main », présentant la sienne pour marque de la fidélité avec laquelle elle voulait garder ce qu'elle promettait, ce que le cardinal refusa par respect, se retirant par le même motif au lieu de s'approcher. Officiellement, Louis XIII pardonna l'intrigue du Val-de-Grâce, mais les courtisans ne s'y trompèrent pas et désertèrent sans hésiter l'appartement de la reine. Ils baissaient pudiquement les yeux en passant devant ses fenêtres. C'est alors que Mademoiselle survint vers la fin du mois d'août. Elle put lire sa bienvenue dans tous les yeux. La gaieté devenait un devoir, les divertissements une obligation, ce fut un soulagement général. Je mis toute la cour en belle humeur. Le roi était alors en grand chagrin des soupçons qu'on lui avait donnés de la reine. Et il n'y avait pas longtemps que l'on avait découvert cette cassette qui donna sujet à ce qui se passa au Val-de-Grâce, dont on n'a que trop ouï parler. Je trouvais la reine au lit malade. L'on pouvait l'être à moins de l'affront qu'elle avait reçu. La moins contente ne fut pas Anne d'Autriche, qui put enfin se dégonfler le cœur. Madame de Saint-Georges, la gouvernante de Mademoiselle, était de ses familières. La reine s'épancha avec elle, sa nièce entière, pour ne pas donner l'éveil, et cette dernière se trouva ainsi maîtresse de secrets dont elle savait l'importance et le danger. Elle n'aurait demandé qu'à les trahir en écrivant ses mémoires. Force lui est d'avouer, d'un ton penaud et en protestant de sa douleur, qu'il ne lui en était jamais souvenu. Quelques mois plus tard, elle fut mêlée au roman du roi avec Mademoiselle de Hautefort et ne s'aperçut même pas ce qui est du reste à sa louange, des luttes et des cabales pour faire tourner l'aventure à leur profit. Mademoiselle avait pourtant ouvert les yeux et les oreilles tout grands. Les manèges d'amoureux l'intéressaient comme toutes les petites filles. Nous devons même à cet instinct de son sexe, à défaut de remarques plus sérieuses, un joli tableau de la transformation de l'homme par l'amour. Cet homme fut-il l'ennuyeux et ennuyé, Louis XIII. La chasse était le grand plaisir du roi. En 1638, pendant ce printemps lumineux, où on le vit presque gai, où il fut par moments tout à fait heureux, grâce à deux grands yeux bleus, il emmenait sa nièce et d'autres jeunes filles derrière ses chiens, pour avoir un prétexte d'emmener Mademoiselle de Hautefort. Nous étions toutes vêtues de couleurs, raconte Mademoiselle, sur de belles haquenées richement carapaçonnées. Et Pour se garantir du soleil, chacune avait un chapeau garni d'une quantité de plumes. L'on disposait toujours la chasse, du côté de quelques belles maisons où l'on trouvait de grandes collations et, au retour, le roi se mettait dans mon carrosse entre Madame de Hautefort et moi. Quand il était de bonne humeur, il nous entretenait fort agréablement de toutes choses. Il souffrait, dans ce temps-là, qu'on lui parlât avec assez de liberté du cardinal de Richelieu. Et une marque que cela ne lui déplaisait pas, c'est qu'il en parlait lui-même ainsi. Sitôt que l'on était revenu, on alla chez la reine. Je prenais plaisir à la servir à son souper, et ses filles portaient les plats. L'on avait règlement, trois fois la semaine, le divertissement de la musique, que celle de la chambre du roi venait donner, et la plupart des airs qu'on y chantait étaient de sa composition. Il en faisait même les paroles, et le sujet n'était jamais que Madame de Hautefort. Le roi était de si galante humeur qu'aux collations qu'il nous donnait à la campagne. Il ne se mettait point à table et nous servait presque toutes, quoique sa civilité n'eût qu'un seul objet. Il mangeait après nous et semblait n'affecter pas plus de complaisance pour Madame de Hautefort que pour les autres, tant il avait peur que quelqu'une s'aperçût de sa galanterie. En dépit de ces précautions, la cour et la ville, Paris et la province, étaient informés des moindres incidents d'une affaire de cette conséquence. La seule personne que la passion du roi laissa indifférente était la reine. Anne d'Autriche n'avait jamais été jalouse. Elle ne trouvait pas que Louis XIII en valût la peine. Et le moment aurait été mal choisi pour le devenir. Elle était grosse, après 23 ans de mariage. Les mêmes gens qui la comblaient d'avanie dans sa disgrâce étaient maintenant à ses pieds, très sincères dans leur respect et leur dévouement pour une princesse qui serait peut-être reine-mère, peut-être régente de France. Tout s'effaçait pour elle devant ce coup de théâtre délicieux. La nouveauté de se sentir ménagée et considérée était si grande et si agréable qu'elle prenait son parti le plus facilement du monde de voir son royal époux soupirer auprès de la vertueuse et maligne Hautefort, dont les chaînes passaient pour dures à porter. Anne d'Autriche se contentait de sourire des mines transies du roi, de ses gauches empressements mêlés d'effarouchement plus gauches encore. Elle apprenait avec amusement que Mademoiselle de Hautefort se moquait entre jeunes filles d'un amoureux qui n'osait s'approcher d'elle quand il l'entretenait, et qu'elle disait n'y plus tenir d'ennui à force d'entendre parler de chiens, d'oiseaux et de chasse. Les amis le répétaient. Louis XIII finissait par le savoir, se fâchait contre l'ingrate et toute la cour était au noir. S'il arrivait quelques brouilleries entre eux, poursuit la grande mademoiselle, tous les divertissements étaient sursis. Et si le roi venait dans ce temps-là, chez la reine, il ne parlait à personne et personne aussi n'osait lui parler. Il s'asseyait dans un coin où, le plus souvent, il bâillait et s'endormait. C'était une mélancolie qui refroidissait tout le monde. Et pendant ce chagrin, il passait la plus grande partie du jour à écrire ce qu'il avait dit à Madame de Hautefort et ce qu'elle lui avait répondu. Chose si véritable qu'après sa mort, l'on a trouvé dans sa cassette de grands procès-verbaux de tous les démêlés qu'il avait eus avec ses maîtresses, à louange desquelles l'on peut dire, aussi bien qu'à la sienne, qu'il n'en a jamais aimé que de très vertueuses. L'importance politique des favorites du roi échappait à mademoiselle, comme lui échappait alors tout ce qui était sérieux. « Je n'écoutais, de tout ce que l'on me disait, écrit-elle, que ce qui était à la portée de mon âge. Ne lui demandez pas ce que pensait Richelieu de cette chaste affection. Pourquoi il n'en voulut plus après l'avoir encouragée? Pourquoi il voulut encore moins de Mademoiselle de Lafayette, la poussa au couvent et fit ordonner des médecines au roi, toutes les fois qu'il lui soupçonna l'intention d'aller voir son ami à la grille. Si Mademoiselle a su ces choses, il ne lui en est jamais souvenu. Demandez-lui encore moins pourquoi Louis XIII travaillait sans relâche contre Richelieu et, ne l'aimant point, contribuer à lui sacrifier ses proches et ses amis. Pourquoi, devant la France envahie et les coureurs ennemis à Pontoise, il était resté fidèle, en définitive, et malgré quelques instants de défaillance, au ministre, dont la politique lui a tiré ses humiliations. Mademoiselle n'a sans doute jamais su ces choses. Elle dépassait par trop son horizon. La grossesse de la reine lui fut une occasion de plus de montrer combien elle restait innocente, vivant dans un monde où on l'était si peu. Elle s'en réjouit sans faire la moindre réflexion. Que son père, Gaston d'Orléans, perdrait à la naissance d'un dauphin son titre d'héritier présomptif de la couronne. Anne d'Autriche fut touchée d'une simplicité de cœur à laquelle son expérience des cours ne l'avait pas accoutumée. Elle répétait à sa nièce, pour la consoler, au cas où la réflexion lui viendrait, « Vous serez ma belle-fille ». Sa nièce n'entra que trop dans la plaisanterie. Elle lui dut l'une des heures les plus amères de son existence. L'enfant, qui devait être Louis XIV, naquit au château de Saint-Germain le 5 septembre 1638. Mademoiselle en fit son joujou. « La naissance de Monseigneur le Dauphin, dit-elle, me donna une occupation nouvelle. Je l'allais voir tous les jours et je l'appelais mon petit mari. Le roi s'en divertissait et trouvait bon tout ce que je faisais. Elle avait compté sans son parrain le cardinal, plus croque-mitaine et plus trouble-fête que jamais, qui découvrit de grands inconvénients à ses enfantillages. Le cardinal de Richelieu poursuit mademoiselle, qui ne voulait pas que je m'y accoutumasse, ni qu'on s'accoutumait à moi, me fit ordonner de retourner à Paris. La reine et madame de Hautefort firent tout leur possible pour me faire demeurer. Elles ne pussent l'obtenir, dont j'eusse beaucoup de regrets. Ce ne fut que pleurs et cris quand je quittai le roi et la reine. Leur majesté me témoignèrent beaucoup de sentiments d'amitié et surtout la reine qui me fit connaître une tendresse particulière en cette occasion. Après ce déplaisir, il m'en fallut essuyer encore un autre. L'on me fit passer par Rueil pour voir le cardinal, qui faisait sa demeure ordinaire quand le roi était à Saint-Germain. Il avait tellement sur le cœur que j'eusse appelé le petit dauphin mon petit mari, qu'il m'en fit une grande réprimande. Il disait que j'étais trop grande pour user de ces termes, qu'il y avait de la méséance à moi à parler de la sorte. Il me dit sérieusement tout ce que l'on aurait pu dire à une personne raisonnable, que sans rien lui répondre, je me mis à pleurer pour m'apaiser. Il me donna la collation. Je ne laissais pas de m'en retourner fort en colère de tout ce qu'il m'avait dit. Richelieu tenait la main à ce que ses ordres fussent exécutés. Quand je fus à Paris, je n'allais plus à la cour qu'une fois en 2 mois. Et lorsque cela m'arrivait, je dînais avec la reine et m'en revenais à Paris pour coucher. Il faut dire qu'on aurait peut-être eu de la peine à la coucher au château si le cardinal l'avait permis en passant pour une nuit ou deux. Nos rois avait, à cette époque, des façons de s'organiser fort incommodes, qui les avaient conduits à supprimer le luxe de la chambre d'amis. Chaque fois qu'ils allaient s'établir à Saint-Germain, c'était un déménagement complet. On ne laissait rien dans les appartements particuliers du Louvre. Pas même de quoi coucher le roi de France, si quelques affaires l'appelaient dans sa capitale. Henri IV, qui était sans gêne, s'invitait chez un seigneur, chez quelques bourgeois cossus. S'y mettait à son aise, y recevait le parlement et les belles dames, et ne débarrassait ses hôtes de sa personne qu'à son jour et à sous heure. Le timide Louis XIII n'aurait jamais osé faire des choses pareilles et s'en retourner par tous les temps. Il n'inventa jamais d'avoir deux lits, l'un à la ville, l'autre à la campagne. À la rentrée de la cour à Paris, on redéménageait. Il ne restait pas non plus un matelas à Saint-Germain. Cette singulière coutume en avait entraîné une autre, qui nous paraît bien peu hospitalière et le contraire de royale. Le roi de France ne meublait pas ses invités de marque. Il leur offrait les quatre murs et à eux de s'arranger. On voit dans les mémoires du temps les grands arriver au château, suivis de leurs lits, de leurs rideaux et même de leurs casseroles et de leurs cuisiniers. C'était le cas de monsieur et de sa fille. Ce fut celui de Mazarin sous le règne suivant. Mademoiselle n'ignorait pas ces détails de ménage. Elle savait qu'une couchée à Saint-Germain, cela ne s'improvisait pas, et elle se tint en repos dans ses Tuileries, ne songeant plus qu'à se divertir de son mieux. Le public avait vu dans son exil de la cour une méchanceté gratuite. La fronde a montré que Richelieu avait raison. La grande mademoiselle a fait la guerre civile pour contraindre Mazarin à la marier avec Louis XIV, qui avait 11 ans de moins qu'elle. Son parrain avait bien deviné que l'idée d'être reine de France germerait très vite dans cette petite tête où l'influence de l'Astrée, si vivante encore quoique déjà ancienne, était en train de former une âme de visionnaire. Romanesque entre toutes celles de sa génération. Il est à la gloire d'Honoré d'Urfé, qui mourut en 1625. Qu'on soit absolument forcé de remonter jusqu'à lui et de parler de son roman pour expliquer l'état d'esprit des générations qui arrivèrent à la vie active vers 1640.